penser et dire sa foi. Une émission proposée par Jean-Michel Poirier. Penser et dire sa foi. Une émission en dialogue animée par des enseignants et des étudiants de l'IURP à Toulouse.
Bonjour chers auditeurs, je suis heureux d'être avec Sœur Louisa Madala qui est enseignante à l'IRP et qui est responsable des sciences religieuses, du parcours de sciences religieuses. Alors nous sommes dans ce temps pascal, nous venons de fêter la résurrection, enfin la mort et la résurrection de Jésus le Christ et nous avons en quelque sorte pour nous accompagner dans cet itinéraire pascal, Thomas, Saint Thomas, le jumeau, Thomas Didyme. Nous avons vu sa proximité avec le Christ, il est l'un des douze. Nous avons vu également qu'il est celui qui est à la fois un homme qui doute, mais il est aussi un homme qui est capable d'affirmer la foi avec les mots les plus justes, d'une certaine façon. Et nous avons vu aussi la dernière fois comment, lorsqu'il s'agit d'avancer vers la Pâque, il invite, avançons afin de mourir avec lui, il invite les autres disciples à avancer avec Jésus pour mourir avec lui. Et nous avions vu qu'il y avait un aspect à la fois nocturne, parce qu'il trébuche, comme vous disiez, hein, et puis en même temps, il y avait un aspect lumineux. Et c'est assez intéressant de voir combien ces attitudes, ces paroles de Thomas vont à chaque fois nous valoir des affirmations de foi extrêmement fortes, relatives au Christ ou bien du Christ lui-même. Par exemple, lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc finalement, ces différents personnages dans l'évangile de Jean, on a évoqué le disciple bien-aimé, on a évoqué Saint-Pierre et puis là ici, Thomas, tous sont relatifs au Christ. Évidemment, le personnage central de l'évangile, c'est le Christ.
Oui, bonjour. Effectivement, tous les personnages, en général, disent quelque chose d'eux, mais en général, c'est pour mettre en valeur telle ou telle facette du visage du Christ, puisque chaque évangile déjà nous donne une facette particulière, hein, un visage, disons, particulier, sont complémentaires tous ces visages. Et dans l'évangile de Jean, Thomas, effectivement, c'est un des disciples qui, je pense, par son intervention, par les traits qui le caractérisent, met en évidence quelque chose du Christ de cet évangile, que cet évangile nous révèle, effectivement. Or, dans cet évangile, contrairement à d'autres, dès le début, les disciples ont trouvé le Messie. Et ils savent que Jésus est Messie. Ils l'affirment tout de suite. On est au chapitre 1, et effectivement, on a André et un autre disciple, et André vient dire à son frère, « Eh bien, le Messie, nous l'avons trouvé. » Donc, c'est très bien. On pourrait dire, « Mais alors, ça y est. »
Oui, ça y est, c'est...
On n'a pas besoin d'écrire un évangile puisqu'ils l'ont déjà trouvé. Et ensuite, il faudra tout l'évangile pour essayer de comprendre jusqu'à la fin, mais de quel Messie s'agit-il? Puisqu'on sait que les attentes à l'époque de Jésus étaient quand même multiples. Il n'y avait pas qu'une seule attente de Messie. Il y avait aussi ceux qui n'attendaient rien d'ailleurs, hein, comme les Sadducéens. Mais après, il y avait des attentes multiples. Quel Messie donc? De quel Messie s'agit-il? Je pense que Thomas, effectivement, a très vite compris, dès le chapitre 11, hein, ce chapitre, on n'est qu'à la moitié, il y a 21 chapitres dans l'Évangile de Jean, donc nous sommes à la moitié, à la charnière d'ailleurs du livre, hein, c'est vraiment un moment très important où on bascule d'une partie de l'Évangile à la seconde partie qui est celle qui amène justement à Jérusalem. Et là, Thomas a cette, et c'est la première fois qu'il intervient dans l'Évangile de Jean, en disant aux co-disciples, avançons afin de mourir avec lui. Cela veut dire que mourir avec lui, c'est-à-dire avec Jésus, qu'il a d'abord compris que Jésus allait mourir. Ce qui n'est pas trop étonnant parce qu'effectivement, il y avait déjà eu beaucoup de signaux dans l'évangile des gens qui montraient qu'on voulait le lapider, on voulait l'arrêter, on voulait... Voilà, donc on sentait ça. Donc, en tout cas, ça, non seulement il a réalisé qu'il allait mourir, mais il a accepté puisqu'il dit même, il exhorte même lui-même et donc les autres à mourir avec lui. Donc, ça veut dire que dès le début, Thomas a compris ce que, effectivement, la fin de l'évangile nous montre, que Jésus est bien le Messie, mais c'est un Messie qui va mourir. Et pourquoi va mourir? Eh bien, l'évangile de Jean nous donne une réponse, bien sûr, qui là aussi c'est complémentaire, il n'y a jamais une seule réponse, la Bible est toujours plurielle, mais une réponse, c'est toujours dans ces chapitres 11, après que Lazare, le retour à la vie de Lazare, c'est l'élément qui déclenche le fait qu'on décide de mettre à mort Jésus. Hein. C'est l'élément qui déclenche le fait que les autorités religieuses disent, eh bien là, ils décident de le mettre à mort. Et là, l'évangéliste a une phrase qui est très forte, on est au centre de l'évangile, dit « Pourquoi Jésus meurt ?» Eh bien, Jésus meurt pour la nation juive, et puis meurt pour réunir en unité les enfants de Dieu dispersés. Voilà. Donc ça, c'est clairement le but, on comprend bien la visée de la mort de Jésus, c'est donc réunir en un, si vous voulez, réunir en unité. Réunir en un fait penser aussi au bon pasteur, il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Voilà. Et, mais réunir en un, je pense aussi, en unité, c'est aussi conduire les enfants de Dieu, disperser justement, reconduire à l'unité, les reconduire à la communion. À la communion, et là, nous l'avons un peu dit dans une émission précédente, c'est la communion d'abord entre les disciples déjà, et Dieu sait si cela est toujours d'actualité, conduire à la communion, mais qui ne peut être vrai et réel si ce n'est qu'une communion avec lui, avec Jésus, grâce à la communion du Père et du Fils, puisque là c'est bien la source. Or Jésus meurt pour cela, et vous me direz, mais oui, mais quand on voit toute la désunion qui peut exister entre les disciples du Christ, bien, mais Jésus l'a fait, c'est un don, mais c'est pas un dû, et il dit bien réunir en grec. C'est une proposition, c'est eis, mais enfin, peu importe, mais une proposition qui dit une dynamique vers quelque chose. C'est-à-dire, c'est donné, mais en même temps, c'est pendu. Je dirais, il est déjà là et pas encore. Et en même temps, c'est tout le temps à construire, hein, parce que Jésus nous a donné ça sur la croix. C'est un don, donc, et en même temps, eh bien, c'est quelque chose auquel nous...
Et nous retrouvons le thème du chemin, c'est-à-dire que nous sommes encore en chemin.
Et nous sommes donc en chemin, même si le don est donné complètement. Ouais. Mais dans un langage qui n'est pas tout celui des gens, mais qu'on applique souvent aux synoptiques, on dit « déjà là », parce que c'est déjà là, le don est donné totalement, hein, et pas encore dans le sens, eh bien, que, comme vous dites, on est en chemin vers cela, vers cette communion. Mais c'est vraiment le sens très fort, et il me semble d'une très grande actualité, même, je dirais, pour ce que nous vivons en Église aujourd'hui, de mourir pour réunir. Voilà, il y aura un seul troupeau, il y aura un seul pasteur, c'est fait, et en même temps, voilà, nous sommes en chemin vers
cela. C'est-à-dire que c'est à recevoir.
Et c'est à recevoir, effectivement. Et c'est à recevoir. Or, à la croix, donc, Jésus meurt et son sang, c'est le sang qui va faire de ceux qui étaient des disciples, simplement des disciples, des frères, va créer la fraternité. Parce que à la croix, Jésus, c'est à la croix les disciples deviennent des frères, par cette phrase, par cette parole, disons, de Jésus, qui dit, au chapitre 19, nous sommes là, verset 26 et 27, si tel ou tel auditeur veut relire ces passages, donc je répète, c'est au chapitre 19. Femme, voici ton fils, et puis voici ta mère, dit aux disciples que Jésus aimait. Donc là, Jésus est le fils qui ajoute une autre fils à la mère, en faisant de celui-ci un frère. Et là, il y a un arrière-fond, Jésus se faisant, crée donc des disciples, une fraternité, et en arrière-fond, il y a la figure de Joseph. Mais Joseph, le patriarche.
Oui, Joseph, pas l'époux de Marie.
Pas l'époux de Marie, bien que c'est sûrement pas anodin que dans l'évangile de Jean, deux fois, c'est dans Luc aussi, mais dans Jean, il est présenté et connu aussi par ses concitoyens comme Jésus, fils de Joseph. Alors, bien sûr, Jésus, fils de Joseph, au sens fils adoptif de Joseph, l'époux de Marie, d'accord. Mais il peut y avoir aussi en arrière-fond le fait qu'il est fils de Joseph au sens qu'il réalise ce que Joseph, le patriarche, a fait, puisque vous êtes spécialiste de la Genèse, donc ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'il y a un cycle de Joseph dans les Genèses. Et qu'est-ce qu'il fait Joseph? Joseph qui est mis dans la citerne par son frère, qui est dépouillé par son frère, qui est vendu par son frère. Donc vous voyez combien de rappels on a Jésus, avec Jésus derrière. Hein? Eh bien, ce Joseph-là, c'est celui qui va faire des frères qui étaient divisés, de la fratrie, fait advenir une fraternité. Voilà. Et Jésus va renouveler cela en l'accomplissant et en le portant, bien entendu, à plénitude.
D'ailleurs, le nom même du Joseph, du livre de la Genèse, le nom est expliqué par le fait que sa mère, lorsqu'il naît, dit que le Seigneur m'ajoute un autre fils qui sera Benjamin.
Qui sera Benjamin, c'est bien pour ça
mais
que je disais.
Mais qu'il ajoute un autre fils, c'est-à-dire qui deviendra du coup un frère.
Frère. Et Jésus, c'est bien celui qui a la croix, avec ses paroles, ajoute, c'est le fils qui ajoute notre fils, et donc qui ajoute des frères. Et cela trouvera confirmation à la résurrection, parce que je ne sais pas si on fait souvent attention, mais quand il y a cette rencontre avec Marie de Magdala, Jésus dit à Marie, va vers mes frères, et Marie va vers qui? Vers les disciples. Ça veut bien dire que les disciples sont des frères.
Merci beaucoup, Sœur Louisa, de nous avoir entretenus pendant cette série d'émissions de ce mois d'avril, donc où nous avons fêté Pâques, nous sommes encore dans le temps pascal, nous avoir parlé de Thomas le jumeau. Je rappelle que les jeudis 25 et vendredi 26 mai, vous animerez une session à l'IRP sur ce personnage, sur ce qu'il représente. Vous l'avez sous-titré « Un disciple, un Christ » dans l'évangile de Saint Jean. Et je rappelle qu'on peut suivre cette session soit sur place, donc aux 8 places du Parlement à Toulouse, mais aussi la suivre éventuellement à distance. Et donc vous pouvez soit téléphoner à l'IRP, soit tout simplement aller regarder sur Internet.
Sur le site de l'Institut catholique.
Session IRP, Thomas le jumeau. Voilà, merci beaucoup Sœur Louisa.
Merci à vous et aux auditeurs.
Et à bientôt, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.